Radio Kapi. Oh, Kapi. Le journal Belinda Bosuma Mwamba.
Plutôt normal ce jeudi à Kananga. Les activités reprennent progressivement. C'est après la panique généralisée hier suite aux tueries enregistrées après le passage des militaires dans certains ménages. Lutte contre le choléra dans le Haut-Katanga. Une campagne vient d'être lancée à Lubumbashi, dénommée « Consommons de l'eau potable pour rester en bonne santé », initiative d'une plateforme d'ONG nationale et internationale. Et puis, coupe du bois rouge dans la province du Haut-Katanga. Son entreposage, l'achat et l'exportation illicite au centre d'une réunion importante. Il était question lundi de remettre de l'ordre dans ce secteur. Un reportage à suivre dans la seconde partie de ce journal. Madame, Messieurs, bonjour. Ce journal part de Kananga, où des tirs nourris ont été entendus la nuit dernière au quartier Plateau et Kamaï, dans la commune de Kananga. Des responsables de la 21e région militaire contactés ce matin affirment qu'il s'agissait des tirs de sommation pour décourager les miliciens. La journée des jeudis connaît une ambiance assez normale, outre les établissements qui sont restés fermés à cause de la peur des parents à envoyer leurs enfants à l'école. Les autres activités ont repris progressivement d'après les mêmes sources. Des boutiques et magasins ouvrent progressivement et le transport en commun a repris des plus belles. Toutefois, la peur continue de gagner plusieurs habitants, surtout ceux de la commune de Nganza. Pour sauver leur vie, plusieurs d'entre eux sont obligés de fuir leur domicile et ce mouvement débuté hier connaît une baisse ce matin. Radio Kapi a reçu depuis hier des témoignages alarmants qui parlent des blessés et des morts enregistrés dans certaines familles après le passage des militaires. Nous vous proposons ce qui nous sont parvenus cet avant-midi.
Si l'avenue du cimetière, chez l'ancien bourgmestre de Kato, Kamisengwa Kabem, on a tué sa maman et tout le monde qui se trouvait dans la maison. On a fui. Même d'autres enfants viennent de quitter pour chercher des logis, mais ils ont peur des militaires. Depuis ces jours-là, on est affamé. On a où mettre nos têtes. On sait quoi faire. Il y a un désordre total à la Nganza. Trop de militaires. Ils entrent dans chaque maison pour tuer les gens. Ma sœur, qui était perdu, on vient de m'informer qu'il a été tué. Mes parents ont fui. Je demande l'intervention et l'assistance du gouvernement et de la MONUSCO. Les cadavres jonchent encore sur terre. Chez nous, il y a 4 morts. On a tué ma mère, ma belle-sœur et ma femme qui était enceinte, même un bébé
aussi. Belle-sœur,
toujours à propos de la situation au Kasaï central, revenons sur la découverte des dépouilles des deux experts onusiens morts dans l'exercice de leurs fonctions dans le Kasaï avec ses réactions. L'ambassadrice Nikki Haley, représentante permanente des États-Unis auprès de l'ONU, salue le courage et l'engagement de ces deux experts. Commentant le décès de son compatriote Michael Sharp, Nikki Haley indique que ce dernier n'a pas hésité à se mettre en danger pour essayer d'apporter un changement positif dans la vie des Congolais. Blaise Makassi nous donne l'essentiel de sa déclaration.
Nikki Haley indique dans un communiqué publié hier mercredi que Michael Sharp et Zaida Catalan, l'autre experte suédoise, ont été tués sans aucune raison alors qu'ils effectuaient une mission pour les comptes des Nations Unies en République démocratique du Congo. Elle souligne le courage de cet expert américain qui a pris le risque de se rendre dans une zone à risque. C'est toujours pénible de perdre un Américain courageux et pleinement dévoué à servir. Michael travaille en première ligne de ce que nous nous efforçons de faire chaque jour aux Nations Unies, identifier les problèmes et y apporter des solutions, rappelle les communiqués signés par Nikki Haley. Elle indique avoir reçu avec profonde tristesse la confirmation de la mort de ses experts et a mis en exergue le courage de Michael Sharp et son désir de servir autrui qui constitue un exemple pour tous. Le corps de Michael Sharp et Zaida Catalan, deux experts de l'ONU disparus le 12 mars dans la province du Kasaï central, ont été retrouvés lundi 28 mars près de la localité de Bukonde, a déclaré mardi soir le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, confirmant une information révélée plus tôt par la presse.
Et justement à ce sujet, le gouvernement congolais est appelé à mener une enquête pour déterminer les circonstances de la mort de ces deux experts de l'ONU au Kasaï central et en même temps, les Nations Unies mèneront leur propre enquête sur le terrain. Déclaration du porte-parole intérimaire de la MONUSCO, citant le secrétaire général de l'ONU, Charles-Antoine Bambara, l'a dit hier au cours de la conférence de presse des Nations Unies à Kinshasa. Ces propos ont été recueillis par Honoré Missinga.
Le secrétaire général dit dans sa déclaration qu'il espère que les autorités congolaises mèneront une enquête complète sur cet incident. Les Nations Unies de leur côté mèneront également une enquête et il conclut en disant « si l'enquête aboutit à cette conclusion que c'est un acte criminel qui a été posé à l'encontre des deux employés des Nations Unies, membres du groupe des experts », le secrétaire général des Nations Unies dit que tout sera fait pour s'assurer que justice soit faite. Donc il y aura une enquête des Nations Unies dans la province sur le terrain. Nous avons déjà, comme vous le savez, renforcé notre présence sur le terrain avec les policiers des Nations Unies qui sont spécialisés justement dans ce genre d'enquête. Elle a commencé sur le terrain cette enquête déjà et nous pensons pouvoir la continuer. Nous appelons donc les autorités aussi au niveau de la RDC à ouvrir une enquête pour déterminer exactement ce qui s'est passé.
Dans le même registre, notez que des messages fusent d'un peu partout dénonçant le décès de ces experts onusiens. Dans un communiqué publié hier dans la soirée, le chef de la MONUSCO affirme que les auteurs de ce terrible crime doivent être traduits en justice. Maman Sidikou ajoute que la mission onusienne espère que les autorités de la RDC mèneront une enquête approfondie sur ce décès et l'ONU est prête à fournir le soutien nécessaire pour assurer la justice. La suite de ces réactions avec vous, Pélékipé Lamondo.
Pour revenir au communiqué de la MONUSCO, disons que Maman Sidikou promet que la mission onusienne en RDC et la famille des Nations Unies au Congo continueront d'honorer le travail et le dévouement de Michael et Zaïda dans le cadre de leur engagement commun à soutenir une paix durable en RDC et particulièrement dans la région du Kasaï. Pour sa part, le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères belge s'est dit indigné par les décès de ces deux membres du groupe d'experts des Nations Unies. Didier Reynders estime qu'une enquête indépendante nationale et internationale est nécessaire et les responsables doivent être traduits en justice. Par ailleurs, il affirme que plus que jamais, l'accord politique du 31 décembre 2016 doit être mis en œuvre fidèlement. Cela nécessite, ajoute-t-il, la nomination des premiers ministres mise en avant par l'opposition, de même que l'organisation d'élections justes et transparentes en 2017. Les chefs de la diplomatie belge pensent aussi que des mesures urgentes doivent être prises pour rétablir les droits et libertés en RDC comme prévu dans l'accord. Les décès des deux experts de l'ONU ne doivent pas rester vains. Ils rappellent en effet l'urgence de mettre un terme à la violence dans les Kasaï qui a jusqu'à présent fait plus de 400 morts et où les deux Onusiens ont perdu la vie en essayant de faire la lumière sur ces événements, écrit Amnesty International.
Pendant ce temps, dans la province du Tanganyika, 5 personnes ont été tuées par balle dans une attaque survenue mardi au village Kanambe, non loin de Mapanda-Maïla, secteur de Bendera. Les autorités provinciales parlent d'un assassinat. Ce crime a été précédé 4 jours avant par la découverte au village Kanambe d'un corps sans vie d'une femme de Mapanda. Sur place, une psychose gagne les habitants dans la zone. François-Xavier Mibé.
La mort de ces 5 personnes est survenu mardi après une attaque perpétrée dans le village Kanambe. Il s'agit du chef traditionnel Kanambe. Son épouse et ses 3 fils, toutes ses victimes, ont été tuées par balle, ce que témoigne un activiste des droits de l'homme dans le secteur de Bendera. Après la mort du chef, la communauté des Toa promet des représailles dans le village Mapanda qui est en train de se vider de ses habitants. Il fuit vers Bendera. Les autorités provinciales du Tanganyika s'activent à dépêcher une équipe d'investigation sécuritaire sur les lieux. Le ministre provincial de l'Intérieur, Joseph Kilouba.
Nous sommes en train de prendre les dispositions de chercher à identifier les auteurs de ces assassinats malgré les recommandations qui ont été arrêtées à la fin du forum pour la cohabitation pacifique entre communautés.
Est-ce un défi, monsieur le ministre?
Et on ne peut pas défier l'État. On ne va pas laisser les coupables impunis. Nous avons besoin de vie et c'est avec la vie qu'on va créer le développement de cette province.
L'attaque du village Kanambe est le deuxième incident rapporté en lien avec les conflits Toa-Bantu dans la région. Cette attaque survient après celle qui a fait 18 morts au camp Mutuba, regroupant les Toa en territoire des Manono. Et cela à un mois de la tenue du forum de paix convoqué par les autorités provinciales du Tanganyika. Kalemi, François Diabemibe, Radio Kapi.
Parlons santé à présent avec le lancement hier à Lubumbashi de la campagne dénommée « Consommons de l'eau potable pour rester en bonne santé ». Cette campagne prévue pour un mois est lancée en marge de la Journée mondiale de l'eau célébrée le 22 mars de chaque année. À cette occasion, le Cluster Wash UNICEF, une plateforme d'ONG nationale et internationale qui milite dans le domaine de l'eau, de l'hygiène et de l'assainissement du milieu, a initié une série de sensibilisations à la consommation d'eau potable pour lutter contre le choléra dans le Haut-Katanga. Des précisions avec le coordonnateur de cette plateforme et co-facilitateur de la campagne, Philippe Loabo, au micro de Nelly Kabena.
À partir d'aujourd'hui, par exemple, ces relais communautaires vont passer avec le mégaphone dire à la communauté que nous pouvons consommer de l'eau potable et rester en bonne santé. Il y a des quartiers qui sont connectés à la régie des eaux. Alors cette eau qui est acheminée vers les ménages, du lieu du pompage de l'eau jusqu'au ménage, l'eau parcourt une trajectoire. Cette trajectoire-là, comme nous connaissons, il y a des tuyauteries qui ne sont plus changées. Cette tuyauterie pose déjà un problème. Et quand l'eau arrive déjà dans le ménage, c'est une eau à problème. Alors, nous sommes appelés à alerter la communauté. Quand vous tirez l'eau de cette tuyauterie, vous êtes appelés à traiter cette eau. Les purifiants, il y en a. Quelqu'un peut aller acquérir, à acheter. Vous allez vous approcher, il y a une pharmacie à côté de vous. Vous pouvez poser la question, est-ce que vous avez les aquatables, est-ce que vous avez un purifiant d'eau. Les petits sachets d'aquatables, c'est pour 20 litres. Un comprimé d'aquatable, vous mettez dans un bidon, 30 minutes après, cette eau-là est potable. Je peux prendre un comprimé, je mets dans les 20 litres. Si mon bidon n'a pas été au préalable nettoyé, je risque encore de recontaminer cette eau-là que je suis censé prendre en bon état.
Pendant ce temps, le centre de traitement de choléra à Mbandaka est en rupture des médicaments depuis lundi. Cela peut favoriser la flambée des cas dans la ville, indiquent les autorités sanitaires. À la base de cette situation, le désengagement brusque de l'ONG ADRA qui s'occupait de la prise en charge des malades. La situation préoccupante survient alors que les malades continuent à affluer. Ces derniers qui sont pris en charge par leurs familles démunies lancent un SOS à l'endroit des autorités en vue de prendre leurs responsabilités. Paul Richard Malengue là nous fait le point.
À l'entrée du centre, c'est une foule de gardes malades en détresse. Chacun s'affaire entre le CTC et les officines d'alentour en vue de se procurer des médicaments exigés pour son malade. À l'intérieur d'un des pavillons, ce sont des malades découragés comme ils ne bénéficient plus de la gratuité des médicaments. Les médicaments étaient gratuits, ADRA ne les amène plus ici. Nous les achetons nous-mêmes, que les autorités nous assistent puisque nous risquons la mort. Je suis un voyageur, j'ai personne pour m'acheter des médicaments ni la nourriture. Que les autorités nous aident. Le personnel du centre n'est pas en reste. Il dénonce l'immobilisation de l'ambulance depuis le matin, l'ONG ADRA ayant retiré sa batterie. Cet agent s'estime alors en danger faute d'un train de protection. Voici, je suis en plein service sans gants, sans bottes. Nous tombons aussi malades, il n'y a plus de chlore. Nous sommes en danger par manque de matériel. Prévu pourtant au 31 mars prochain, l'ONG Adventiste n'a fait que précipiter son désengagement. Le chargé de logistique d'ADRA explique.
Bon, le projet prendra fin le 31, c'est vendredi. Bon, jusqu'à présent, nous aussi dans notre dépôt, on n'a rien comme être.
En attendant enfin l'appui d'un nouveau partenaire, les malades sont presque abandonnés. Bandaka pour Richard Malengue, la radio Okapi.
Enrôlement des électeurs. En Ituri, plusieurs centres ont été attaqués par des hommes armés. Depuis le début de cette opération, en décembre 2016, ces actes sont perpétrés soit par des miliciens des FRPI dans le territoire d'Irumu, soit par les Mai Mai Simba dans celui de Mambasa. La dernière attaque est survenue mardi dans la nuit au centre d'inscription de Kamati dans la collectivité de Walendubindi. Mais qu'est-ce qui justifie ces attaques contre la CENI? José Deschartes Menga.
Des témoins rapportent que des miliciens ont réussi à pénétrer à Kamati vers 22h. Plus tôt dans la journée, ils se sont affrontés avec les forces loyalistes. Ils se sont dirigés vers le centre de la CENI où ils ont emporté deux kits d'enrôlement ainsi qu'un important lot de cartes d'électeurs. 20 km plus loin, ils ont tenté la même aventure à Aveba sans y parvenir. Cependant, ils ont réussi à prendre d'assaut un campement des agents de la CENI à Kagaba qu'ils ont pillé. Ils ont ensuite enlevé un opérateur de saisie de la CENI qu'ils ont emmené en brousse. Ils lui ont exigé de les enrôler sur place. Ce dernier a expliqué aux rebelles qu'il n'a pas le mot de passe pour accéder aux machines. Ils lui ont alors tiré une balle dans la jambe. L'infortuné a tout de même réussi à s'échapper. Le responsable de la CENI en Ituri confirme ces faits. Jimmy Anga indique que les miliciens réclament d'être enrôlés. Il affirme que la CENI discute avec des notables de la zone pour décanter la situation, car l'enrôlement se clôture le 14 avril en Ituri. Bounia, José Deschartes Menga, Radio Okapi.
Dans l'actualité, notez aussi que le rassemblement s'est réuni hier afin de procéder à l'évaluation du dialogue national du centre interdiocésain. Il exprime sa préoccupation face à la situation actuelle en République démocratique du Congo et réaffirme son attachement à l'accord du 31 décembre. Dans sa déclaration politique, le rassemblement lance un appel au peuple congolais et lui demande de rester en état d'alerte et de résistance. Le rassemblement annonce un plan de mobilisation générale qui inclut entre autres des manifestations publiques pacifiques du 10 au 24 avril prochain pour revendiquer l'application de l'accord de la Saint-Sylvestre. Nous allons à présent passer à l'actualité en dehors de nos frontières.
Actualité Afrique Monde.
Et nous commençons en Côte d'Ivoire où plusieurs réactions sont enregistrées au lendemain de l'acquittement de Simone Gbagbo, l'ex-première dame ivoirienne. Le président de la Ligue ivoirienne des droits de l'homme, Lido, dit ne pas être surpris par la décision de la cour d'assises d'Abidjan. Avant le procès, la Ligue s'était constituée en partie civile, mais quelques jours avant, ses avocats comme ceux de la FIDH avaient renoncé à y participer, dénonçant l'organisation du procès à la va-vite. D'autres défenseurs des droits de l'homme dénoncent une prime à l'impunité. De leur côté, les partisans de Mme Gbagbo, qui ont longtemps dénoncé un procès politique et une injustice instrumentalisée, ont vu dans cet acquittement un geste vers la réconciliation en Côte d'Ivoire. Au Burundi, le porte-parole des FNL d'Agathon Rwasa, considéré comme le principal opposant au président Pierre Nkurunziza, lance un cri d'alarme. Il accuse le pouvoir burundais d'avoir durci depuis le début de l'année la répression contre leur mouvement qui n'est pas reconnu officiellement par le gouvernement. Il parle d'un complot qui viserait à éliminer leur leader qui est pourtant premier vice-président de l'Assemblée nationale. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, est arrivé ce jeudi en Irak pour examiner l'aide humanitaire. Il qualifie de prioritaire la protection des civils piégés par les combats contre le groupe État islamique à Mossoul. Antonio Guterres doit s'entretenir avec des hauts responsables irakiens, dont le premier ministre Heydar al-Abadi. Le secrétaire général de l'ONU s'envolera ensuite pour Erbil, la capitale de la région autonome de Kurdistan irakien dans le nord. Voilà tout pour la synthèse de cette actualité internationale.